Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici de retour avec l'économie en folie qui prend, il faut le dire quand même, des airs d'été maintenant.
Eh oui, mais bonjour.
On est en plein dans la saison, on est en plein dans le sujet. Bonjour Bernard.
Bonjour à tout le monde.
Aujourd'hui on va parler agriculture, il fait bon, donc les agriculteurs travaillent.
Et oui, nous sommes dans la saison où il faut ramasser par exemple l'orge et pour certains derrière semer du tournesol.
Voilà.
Puisque ça est, l'alternance sur la même année commence à se répandre, en particulier dans la plaine du Volvestre.
Et donc, voilà, tous les travaux d'hiver qu'incombent aux agriculteurs. Donc on va commencer avec le plus vaste, l'agriculture aujourd'hui, 2017.
Oui. L'agriculture, maintenant, qu'est-ce que c'est devenu, comment ça évolue? C'est une manière aussi de parler de l'agriculture dans le Volvestre. Il faut partir de cette vision nationale à un moment de notre histoire aussi où il se passe des choses, il va se passer des choses, évidemment, autour de l'agriculture. Pourquoi? Parce que l'Europe a un rôle très, très important dans l'agriculture et l'Europe est en question. Et l'Europe, il y a des négociations qui vont se faire avec la Grande-Bretagne, ça aura un effet sur l'agriculture. Et il y a des négociations internes, bien entendu, avec le changement de gouvernement en France et aussi du côté des ex-pays de l'Est, des évolutions, par exemple en Roumanie ou en Pologne, concernant l'agriculture, qui auront du poids sur notre pays, des conséquences.
D'accord. Alors, aujourd'hui, comment peut-on situer un agriculteur, on va faire une moyenne, hein, un agriculteur donc dans notre cadre de vie en 2017?
En 2017, un agriculteur, eh bien, il peut dire qu'il est représentant d'une espèce en voie de disparition si on ne fait rien. En 10 ans, la moitié des exploitations agricoles françaises ont disparu.
Oui.
Voilà, c'est simple. En 10 ans, 20 ans, 30 ans, le nombre d'agriculteurs voit, il diminue de manière quasi inexorable.
Oui.
Ensuite, ceux qui restent sont de plus en plus âgés, ce qui est bien le signe d'une certaine disparition des exploitations
D'accord.
agricoles.
Alors, est-ce qu'on peut savoir, ou est-ce que vous savez peut-être nous dire pourquoi il y a la disparition des agriculteurs?
Oh, il y a d'abord le principe premier, c'est le problème du revenu.
Oui.
Dans le monde agricole, il est difficile, et c'est historique, bien sûr, de vivre de son travail, puisque les technologies ont fortement évolué, les consommateurs voient leurs exigences changer, et puis le monde surtout se rétrécit.
Oui.
Regardez, en plein hiver, vous trouvez des fruits, disons, exotiques, ou des productions telles que la tomate, vous la voyez arriver de l'autre bout du monde, et finalement, elle a quasiment le même prix que les tomates en plein été, lorsqu'elles sont produites dans le Volvestre.
Oui.
Ça interpelle quand même.
D'accord. Donc ce qui veut dire que c'est la grande industrie finalement qui manipule aussi l'agriculture.
Elle manipule un peu l'agriculture, mais ce qui a manipulé l'agriculture fortement, c'est la technologie. Comme aujourd'hui dans d'autres secteurs d'activité. L'arrivée du tracteur, n'est-ce pas, ça a eu un effet radicalement bouleversant dans le monde agricole.
Oui.
Où un exploitant avec sa paire de bœufs ou ses chevaux mettait tant de temps pour labourer un hectare, mais il mettait vraiment du temps.
Oui.
Pour un tracteur, c'est vite fait, c'est vite plié. Et ça date des années 30, avec un développement colossal en France à partir de 1950. D'ailleurs, qu'est-ce qui caractérise le monde rural aujourd'hui? C'est que vous pouvez vous promener, vous voyez d'énormes engins, avec une personne.
Oui.
Autrefois, vous voyez, petits engins avec plusieurs personnes. Voilà la vision que j'ai lorsque j'étais enfant de l'agriculture.
Oui, tout à fait. Alors, je voudrais un petit peu qu'on reste sur ce sujet-là. Vous dites donc que maintenant, voilà, il y a un grand essor. Moi, je voudrais quand même revenir sur ce type d'agriculture. Comment on laisse une grande multinationale faire, par exemple, des grandes fermes de milliers d'hectares qui appauvrissent le sol? C'est reconnu. Tout le monde en a déjà parlé. Comment on dit? C'est pas au bénéfice, c'est au
profit d'eux.
Au profit de l'agriculture qui est quand même assez raisonnée, même si elle est assez grande, je veux dire, c'est local, mais c'est raisonné.
Alors, ça, c'est le débat interne sur la façon de faire agriculture. Parce que la concentration des terres, elle est en marche depuis très longtemps. Et ici même dans le Volvestre, nous avons des agriculteurs qui ont des centaines d'hectares à cultiver. Ils s'en sont soit propriétaires, soit le statut le plus répandu dans le monde agricole, c'est fermier.
Oui.
Les fermiers représentent aujourd'hui les trois quarts de la population agricole. Hein, ça veut dire que les vrais propriétaires du sol, ce ne sont plus eux qui les exploitent. On revient quelque part vers le Moyen-Âge. Le propriétaire du sol, ce n'est pas celui qui le travaille. Est-ce que là aussi, on ne va pas avoir quelque chose d'un peu particulier? Donc à partir du moment où le propriétaire du sol n'est pas celui qui le travaille, bien sûr, ça devient un produit, un placement. Je l'ai, je le revends, je suis sollicité. Ça devient un marché.
Mmh.
Et le marché, eh bien, celui qui achète, il regarde si ça peut rapporter. C'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, la technologie pousse à ce qu'on fasse ça. Si vous achetez un tracteur de 200 ou 250 000 euros, ce n'est pas pour travailler sur 12 hectares. Vous n'allez jamais l'amortir, comme on dit, en termes financiers. Et c'est vrai. Si vous achetez un engin comme ça, ça veut dire que vous avez l'objectif d'avoir 200 hectares, 300 hectares à travailler.
Oui.
Voilà.
D'accord.
Et tout pousse à ça. L'image, même l'image agriculteur, il suffit d'aller au salon agricole quelconque en France, il y en a un peu partout, pour voir combien autour des grands tracteurs,
oui.
les familles du monde agricole sont contentes de voir ces engins.
Oui.
Et pour certains, en rêvent.
Mm-hmm.
C'est le signe des réussites, etc. C'est donc compliqué. Et de l'autre côté, quand on travaille ces grandes exploitations, bien sûr, je parle de la technologie mécanique, mais derrière, il y a toute la chimie. Évidemment, cultiver des centaines d'hectares, ça signifie qu'on a, on distribue de l'engrais, on distribue des insecticides, etc. On est dans le traitement et on veut des graines de plus en plus productives. Donc, les agriculteurs, souvent, si vous leur posez la question, ils sont pour les OGM. Ils ne voient que le profit à court terme.
Oui.
Je vais avoir plus.
D'accord. D'accord.
C'est compliqué, mais de ce point de vue.
Quand on voit... dans certains pays, et ils ne sont pas si loin que ça de chez nous finalement, ces pays, quand on voit ces pays qui font des fermes, qui font des milliers d'hectares par exemple de tomates ou de légumes ou de fruits, qui appauvrissent le sol et qui pour certains pays, parce que ça a été reconnu aussi, enlèvent l'eau du sol. Donc... au profit, justement, au profit de ces grandes industries et qui, malheureusement, appauvrissent aussi l'agriculture mondiale, c'est pas bon, ça.
C'est pas bon, mais c'est pas bon du point de vue de la planète.
Et à la planète, pire.
Mais oui, c'est pas bon par rapport à la planète et par rapport à la santé
oui.
des habitants. C'est
oui.
là où il faut se battre.
Oui.
La logique de la concentration, moi, je pense que c'est très difficile d'y lutter.
Oui.
En l'état actuel des choses, parce que d'un point de vue, il y a d'un côté la technologie mécanique, la façon de travailler, de l'autre, il y a la technologie semence. Tout ça s'est chamboulé, les rendements ont énormément augmenté, c'est évident, et tout le monde en est content. De l'autre côté, ça ne stérilise pas le sol, ça le détruit.
Mmh.
Parce que lorsqu'on dit que la terre manque d'eau, c'est un problème, on peut la réalimenter. Mais lorsque une terre est gorgée d'insecticides, de reliquats, de fongicides, qu'est-ce que vous allez en faire?
Oui,
ça stérilise
vrai.
Complètement la terre.
Oui.
Et ça la rend dangereuse pour l'alimentation humaine.
Mm-hmm.
C'est pour cela qu'il y aura un grand débat un jour sur la façon de nourrir
oui.
la planète. Parce qu'on va quand même vers 7 milliards d'habitants.
Et oui, tout
donc,
à fait.
Ce que disent les agriculteurs français, comme ceux d'autres pays, nous sommes là, c'est nous qui nourrissons la planète.
Oui. Alors, revenons dans notre Volvestre, puisque ça, quand même, là, on maîtrise un peu plus que le fin fond de l'Espagne ou le fin fond de l'Afrique.
Pourtant, les agriculteurs, c'est universel. J'ai oui, tendance à dire,
à
moi
fait.
Qui suis fils d'agriculteur, frère d'agriculteur, cousin d'agriculteur, que lorsque je voyage dans le monde, ça m'arrive quelquefois, je ne me sens bien qu'au milieu des paysans.
Non, mais
que
ça
soit
je
en
comprends.
Asie, ou en Amérique, ou en Afrique. Je ne me sens bien qu'avec eux.
Alors, voilà, donc, vous disiez tout à l'heure que le monde agricole, ça appauvrit et ça me nuise. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner, justement, sur la disparition des agriculteurs?
D'abord, c'est assez simple. On prend des chiffres locaux, par exemple.
Oui.
En 10 ans, des statistiques qui datent un peu, entre 2000 et 2010. Donc,
mm-hmm.
en 10 ans, par exemple, à Montesquieu-Volvestre, on est passé de 63 exploitations à 58. À Rieux, de 46 à 31, en 10
pour
ans.
Pour quelle superficie de commune vous n'avez pas?
Ça veut dire que la taille des exploitations restantes augmente.
Oui.
Mais on peut parler aussi de l'urbanisation.
Oui.
C'est-à-dire qu'en France, en 10 ans, il y a 1 700 000 hectares qui ont disparu du monde agricole, qui ont été urbanisés, utilisés pour les zones industrielles, les autoroutes, les services, tout ce qui concerne l'urbanisation, qui ont
d'accord.
été retirés à l'agriculture.
Mmh.
Et ça, c'est des hectares en surface agricole utile. Hein. Il ne faut pas confondre
oui.
la barrière de calcaire dans le périmètre du Volvers avec une prairie. Hein. Ce n'est
oui,
pas
oui,
du
oui.
tout la même chose. La surface
oui,
agricole utile est une grande notion. Mais si vous pouvez, dans notre zone, par exemple, vous avez Palamini. Moi, je trouve ça extraordinaire. Palamini, un petit village juste au sud de Caserres. Ils sont passés de 19 exploitations agricoles, ayant le statut d'exploitant agricole, etc. Hein. Ils sont passés de 19 à 9. En 10 ans.
Ah oui, carrément.
Carrément, voilà. Vous avez Monavaisan aussi. Vous me direz qu'ils ont accueilli des gravières, certes. Mais ils sont passés de 38 à 21. Et le mouvement a continué. Je suis sûr que les chiffres d'aujourd'hui, je ne les ai pas de 2017.
Oui.
Y a encore disparition. Il suffit, quand on se promène dans le Volvestre, on voit des fermes. Mais surtout, on voit les gens qui sont dans les fermes, des fois. On le voit sur le tracteur et tout ça. Il y a très peu de jeunes.
Mmh.
Très, très peu de jeunes. Donc souvent, c'est une exploitation qui est en fin de carrière.
Alors comment on ne facilite pas l'installation des jeunes?
Voilà un vrai problème. Des jeunes qui veulent aller dans l'agriculture, il n'y en manque pas. Le gros problème, c'est est-ce que ce sont des enfants d'exploitants ou pas? Puisque la difficulté pour être agriculteur, c'est le foncier. C'est la terre, c'est l'outil de travail. Si vous n'héritez pas de quelques dizaines d'hectares, comment vous faites? Quoi qu'il en soit, l'hectare de terre cultivable a un certain prix,
oui.
ce qui est normal aussi.
Mais l'agriculteur
qui se dit « je veux 100 hectares, un hectare c'est 5000 euros », vous vous rendez compte de la somme? Comment je vais récupérer? Comment je vais faire? Avec quelle agriculture? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ces variations de prix, et dans certains cas, c'est pas bien payé, il faut être clair, au niveau mondial,
oui.
eh bien, on peut pas avoir un projet d'installation qui soit fiable. Et pourtant, il y en a. Si vous allez au lycée agricole d'Auzeville, vous verrez, il y a plein de gens qui rêvent de devenir agriculteurs, et ce qui est d'ailleurs étonnant, 70%, ce sont des filles.
Oui, oui, tout à fait, je sais, je connais un petit peu. Mais pourquoi on ne facilite pas l'installation de ces jeunes, qu'ils soient issus du monde agricole ou pas? Qu'est-ce que ça fait si par exemple, le fils du boucher veut devenir agriculteur? Eh bien, tant mieux pour lui, c'est bien qu'il veuille être agriculteur.
Alors, mais eh bien, pour ça, nous avons des organismes
oui.
qui gèrent le foncier, les SAFER. On a des organismes professionnels. On a la chambre d'agriculture,
oui.
par exemple. Nous avons aussi des syndicats qui jouent leur rôle, semble-t-il, et qui interviennent au pouvoir public avec force.
Mm-hmm.
Quand on voit les camions défiler, les tracteurs défiler sur la rocade, on se dit quand même, ils bloquent tout.
Oui.
Il ne se passe rien. Et il vaut mieux qu'eux que des étudiants. Il y aurait du dégât, avec un peu d'humour et de distance démocratique. Mais malgré tout, quand on voit, s'il n'est pas fils d'agriculteur ou fille d'agriculteur, l'aide... ça sera très difficile à obtenir, venant de la chambre d'agriculture, venant des organismes agricoles.
Mais
il y a
normal.
Une espèce à ça. C'est un aspect un peu... voilà. On s'entraide entre nous, les autres, c'est plus compliqué. Il y a ça. Ensuite, est-ce qu'il y a une aide réelle des pouvoirs publics? Il y a une aide des pouvoirs publics à l'installation, mais... elle est, pour l'instant, ces dernières années, notoirement insuffisante par rapport à la rentabilité attendue.
Mmh.
Et puis, derrière, il y a quand même une réalité économique que moi, personnellement, je veux soulever fortement. Lorsqu'on regarde un projet d'installation, on regarde, tu fais du blé, il se vend tant, tu le livres à la copée ou pas, que ce ne venait couper les coopératives, ça serait un autre débat. Et si on regarde... bien, quelle est la valeur ajoutée? Il a conduit le tracteur, il a semé, il a surveillé, il a mis l'engrais et c'est parti. Donc, est-ce qu'on couvre ses coûts de fonctionnement? Pas toujours. Est-ce qu'on rémunère le travail? Très mal. Mais la valeur du blé, il va être transporté, transformé, il va partir ailleurs. Toutes ces valeurs, ça lui échappe à l'agriculteur. Le gros débat, Et la réalité, c'est que le monde agricole ne se bat pas pour conserver le maximum de la valeur du produit chez lui. Celui qui fait ça, c'est celui, par exemple, qui élève du bétail, qui le fait abattre, qui le découpe, qui le prépare, qui fait ses colis, qui le met sous vide, qui le congèle, qui le transforme et qui le vend directement au client. Lui, il prend le maximum sur la valeur de son produit.
Oui. Voilà.
Il y en a combien comme ça ? Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Est-ce qu'on les aide réellement ?
Non, on ne les aide pas assez, puisque la preuve, il n'y en a pas assez.
Pas assez, mais pas assez, mais pas du tout même. Oui. Il faut employer les termes comme ils sont.
Alors, comment
pas du tout. Si vous allez à la cantine de plein d'écoles ici, non seulement ils sont pas, la cantine n'est pas avec de la nourriture bio, ce qui est paradoxal, nos enfants, c'est les trésors du monde, n'est-ce pas ? Et d'autre part, les producteurs qui fournissent, les tomates, les navets ou le chou, ils viennent d'où ?
Ah
des
oui.
fois, il a fait 1000 kilomètres. Comment ça se fait ? Il y a des producteurs
l'heure.
À côté, autour. Comment ça se fait ?
C'est ce
voilà, des questions de fond. De fond. Et là, il y a un engagement des pouvoirs publics à avoir. Il y a une action des pouvoirs publics.
Mm-hmm.
Parce que ce n'est pas un petit problème local. C'est un problème qui est d'abord national.
Oui. Alors, justement, pour que les agriculteurs puissent... transformer et tout ce que vous dites à propos de leur travail, c'est peut-être avoir dans l'avenir, est-ce qu'il faut que la population, les consommateurs aillent vers les agriculteurs pour leur dire on attend ça de vous ? Comment on pourrait faire ?
Oh, le consommateur, la décision, on le voit bien, c'est la décision d'achat. C'est la règle dans notre monde de consommation. Ça plaît, on achète. Ça plaît pas, on n'achète pas.
Mm-hmm.
C'est porteur d'une image, on achète ou pas. C'est porteur d'une valeur,
oui.
on achète ou pas. Quand on regarde concrètement autour de soi, ici, là, dans le Volvestre, dans la vallée de la Garonne, assez loin de Toulouse, vous avez des familles, par exemple, qui se fournissent voilà, chez tel ou tel agriculteur systématiquement. Hein, on le voit. Ils achètent de l'amitié, ils achètent de la valeur... symbolique, si vous voulez. Voilà. Ils savent qu'ils permettent à ces gens-là de vivre. Et ça leur procure ça, une certaine joie. Voilà. Ça. Mais ça, c'est une démarche qu'on a de plus en plus par les consommateurs. Par exemple, aujourd'hui, les enquêtes montrent qu'un bon tiers, voire un peu plus, des consommateurs sont tout à fait favorables à acheter local. Voilà.
Oui.
Des fois, il faudrait convaincre les responsables des cantines. Et à ce sujet, je reviens là-dessus. Il faudrait convaincre les responsables des cantines. C'est les pouvoirs publics et ça en fait des milliers de repas par an.
Oui, tout à fait. Est-ce que aussi le fait de consommer saisonnier ne serait pas aussi ajouter une valeur aux agriculteurs ?
Certainement, mais le monde tourne. Acheter saisonnier aujourd'hui, lorsqu'on a envie de fraises au mois, à Noël, c'est vrai que c'est problématique. Et je crois que là, ça sera très difficile, saisonnier.
Est-ce que la qualité ne peut pas aussi jouer ?
Mais elle joue. Mais elle joue. Mais il y a des gens sensibles à la qualité et d'autres pas. Surtout que lorsqu'on leur dit la qualité se paie, ce qui est une erreur complète.
Tout à fait. Là, je
c'est
suis
une
d'accord.
erreur complète. Dans le monde agricole, c'est faux. La vraie qualité, c'est lorsque c'est pas bon, c'est lorsque c'est bon marché, c'est on est en pleine saison, il y en a au taquet, et oui. là, la tomate, elle est excellente et elle est pas chère.
Et oui.
C'est
et
le moment de faire quelques conserves d'ailleurs.
Tout à fait, voilà, de faire des coulis et oui. en prévision de futures pizzas faites maison.
Mais bien sûr, bien
voilà.
sûr.
Voilà. Et alors, que dire par exemple, voilà, maintenant, eh ben. On va au restaurant en plein hiver, en plein mois de janvier, de février, il y a des tomates dans l'assiette, des tomates fraîches. Est-ce que ça, il ne faudrait pas sensibiliser les consommateurs justement pour leur dire « c'est pas normal, ne mangez
c'est
pas les
normal,
tomates ».
Mais c'est pas normal, voilà. Ben on va dire c'est pas normal, mais si ça plaît, si c'est simple pour le prestataire, etc., c'est très difficile. Et puis moi, j'ai toujours dans la tête une petite idée sur le sujet qui me taraude. C'est-à-dire, le gars qui est dans l'entreprise d'exploitation sur le fleuve Sénégal, et qui lui, les haricots verts qu'il ramasse, ils se vendent en Europe. Parce qu'il n'y en a pas encore en Europe. Et lorsqu'il y en aura en Europe, lui, il n'aura pas de boulot. Donc, dans cet aspect de mondialisation, il ne faut pas... Il y a l'envie, mais il faut savoir que tout le monde dans le monde a le droit de travailler. Et peut-être demain, le même producteur dans le Sénégal sera très content de nous acheter des magrets, par exemple. Et voilà.
On a la grippe aviaire, on peut plus faire de
voilà. Magrets. Mais bien sûr, mais ça tourne. Et c'est un système, c'est court. C'est ça qui est extraordinaire. C'est court. C'est court. Comment dire pour prendre un exemple un peu que j'ai vu, hein, le camion au Sénégal qui charge, ça peut être du poisson, ça peut être un recouvert, il charge. Là. On est en fin d'après-midi et il prend la route. Voilà, il prend la route. Quelque part, il y a un port, on le met dans un bateau et il débarque, il est en Espagne. Ça veut dire que deux jours après, il est en France.
D'accord.
Voilà. Vous rendez compte ?
Oui.
Ouais. Est-ce qu'on réalise tout ça tout le temps ? Est-ce que, pour nos enfants peut-être, maintenant on a les tablettes, on a tout, tout marche, tout fonctionne, tout est instantané. Mais imaginez que les produits, vous avez l'impression que c'est instantané. Tout le monde aujourd'hui trouve normal, on achète un livre, on le commande, on l'a le lendemain matin. Bon, quel dommage quand je pense aux libraires, aux librairies. Mm-hmm. On y allait, on achetait un livre et puis on regardait les autres.
Et oui.
Voilà. Mais tout le monde s'est rentré dans la normalité. On ne peut pas... s'insurger ou refuser complètement la technologie. Elle s'impose à nous, quelque part. Et l'homme ne fait qu'inventer.
Si on la refuse aussi, peut-être qu'on peut retarder un petit peu cette consommation si rapide. Est-ce qu'il faudrait développer la culture et l'agriculture de proximité ?
Il existe une agriculture de proximité qui est en danger, parce qu'il faut en parler honnêtement.
Oui.
C'est celle qui est dans notre paysage. Sur le papier, c'est celle qui ne détruit pas tout, à force de traitement de grandes surfaces. C'est celle qui garde petites surfaces. C'est surtout du maraîchage, il faut être correct aussi, pour nos agglomérations. Et c'est elle qui a un lien direct avec le consommateur, ne serait-ce qu'à travers les marchés. D'ailleurs, il faudra reparler des marchés éventuellement.
Oui.
Et elle est là. Alors, que fait-on pour l'aider ? Alors, je reviens toujours sur mes idées, évidemment, avec force. Si d'abord, tout ce qui est pouvoir public faisait un effort pour acheter local et aux petits producteurs de proximité, ça serait une super chose pour lui. Mais c'est aussi à lui de s'organiser pour faire face à ce type de proposition. Oui, parce que si vous prenez la maison de retraite qui veut toutes les semaines une vingtaine de kilos de carottes bien propres, bien etc., qui est prête à les acheter localement, ça veut dire aussi que vous, petits producteurs, il faut que vous vous organisiez pour faire face. Et a priori, il y a des moments où, petits producteurs, vous n'aurez pas la carotte venue, comme disait l'autre. Et donc, il faut s'entendre à plusieurs pour livrer les carottes. Mmh. Il faut le voir un peu comme ça. Et est-ce qu'eux-mêmes le voient comme ça ?
Oui.
Et est-ce qu'eux-mêmes sont prêts à faire cette démarche ? Est-ce qu'on n'a pas les moyens de les encourager à se grouper ?
Tout à fait.
Voilà. Alors, on a des multitudes d'initiatives sur notre territoire. On a des multitudes d'initiatives venant aussi des pouvoirs publics. Il faudrait, par exemple, parler du projet MIAM du Conseil départemental pour encourager, justement, l'utilisation des produits locaux. Mais on a aussi des encouragements pour que des producteurs aillent sur des marchés, qu'on ne les mette pas tous en concurrence non plus. Là aussi, c'est difficile. Si tous les producteurs arrivent sur le marché en même temps, sur un marché, je l'ai vu ça assez dernièrement avec les asperges. Sur un marché du Volvestre, que je ne citerai pas, il y avait un producteur d'asperges qui venait tous les ans, qui était très apprécié, qui venait d'ailleurs d'un autre village, d'une commune pas tout à fait à côté, et qui avait vraiment des asperges extraordinaires à un prix tout à fait convenable. Après, il y avait les revendeurs d'asperges qui venaient des plaines de l'Aude ou du fin fond de la Loire, que sais-je. Bon. Eh bien, les autorités du marché, bon, voilà, cette année, on dit, bon, il y a un producteur, il y a les revendeurs. Alors, les revendeurs ne veulent pas le producteur, il tient à être là, bien sûr, c'est réglé. Eh bien, puisqu'il y en a un, il y en a deux autres qui sont arrivés, eh bien, on leur dit, OK, vous y allez. Eh bien, tous les trois, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont divisés le chiffre d'affaires que faisait l'autre en trois.
Oui.
Voilà. Et donc, résultat des courses, celui qui venait habituellement, bah, il a souffert, il n'a pas fait le chiffre d'affaires attendu. Entre eux, ils se sont mangés.
D'accord. Voilà, alors qu'il aurait mieux valu qu'ils s'entendent tous les trois, faire un seul stand et partager la caisse.
Et pourquoi pas, au moyen. Pourquoi pas, ou qu'ils trouvent une solution.
Oui.
Ou que les autorités de marché disent, c'est toi et personne d'autre.
Oui.
Pourquoi pas. Vous voyez, c'est d'ailleurs compliqué de gérer un marché, mais quand on dit local, Et lien direct,
oui.
Bah, c'est souvent le marché.
Mmh.
Et historiquement, c'est le marché. Aujourd'hui, vous faites un marché, les producteurs locaux, vous en voyez de moins en moins.
Et oui, c'est
de
vrai.
De moins en moins.
C'est vrai.
C'est vrai. Parce que se payer une journée à essayer de vendre son produit sur le marché, il faut quand même déjà un certain chiffre d'affaires pour se payer soi ou la personne qui vous représente.
Oui. Est-ce que, par exemple, les petites manifestations qui se voient quand même par-ci, par-là, c'est-à-dire les portes ouvertes que les agriculteurs ouvrent leurs fermes aux visiteurs, est-ce que ça, ce serait un bon moyen, justement, de pouvoir développer la proximité et peut-être, pourquoi pas, envisager un regroupement d'agriculteurs pour qu'ils fassent, par exemple, un magasin où ils vendraient leur viande, où ils vendraient leurs légumes. Pourquoi pas, leurs céréales, après tout.
Bien sûr, bien sûr. Alors, la technique portes ouvertes, si vous voulez, ça date depuis longtemps. Hein, ça a été mis en place par beaucoup de producteurs, souvent d'ailleurs qui avaient développé plutôt telle ou telle production, hein, et même avec d'ailleurs des choses du style venez ramasser vos fraises ou vos pommes, on les pèse, vous payez, et puis vous mangez avec nous, voyez.
Oui.
Festif avec les enfants.
Voilà.
Or, ça c'est ce lien pour établir avec le consommateur, le fidéliser, et à partir de là, ça peut donner quelque chose, le fidéliser.
Oui.
Et le consommateur, il va regarder le prix, l'ambiance, etc. Hein, c'est sûr. Ça marche, plus ou moins. Mais encore faut-il avoir du respect aussi pour le consommateur, parce qu'on voit des choses éventuellement pas toujours très correctes, comme d'habitude dans le business.
Hein. Oui.
Je veux dire, on n'échappe pas aux règles, et voilà, dans le business. Alors, lorsqu'on a des... Je pense à... Là, sur l'instant, voilà, ça va être, c'est préenregistré, hein, je le rappelle aux auditeurs. Je passe un instant au rucher des ânes de Rieux. Ils ont une technique d'accueil de leurs clients qui est extrêmement sympathique et qui marche bien. Ils font parrainer les ruches par des familles, voilà, des systèmes qui sont une manière de les fidéliser aussi. Et une manière de les sensibiliser à leur travail, à leurs produits. Je trouve ça, c'est très ponctuel, c'est vraiment un petit apiculteur, mais c'est très sympathique. Voilà, les gens qui ont adhéré, ça en sont très contents pour leurs enfants, etc. Vous voyez cette technique.
Oui.
Mais ça, c'est très ponctuel, il faut avoir une vision plus large, plus grande, c'est-à-dire regarder tout ce qui se met en place. Il y a plein d'idées. Tout le monde connaît les AMAP avec cet engagement du consommateur à acheter toutes les semaines un panier, par exemple, qui est constitué par l'AMAP. Ça marche bien dans plein d'endroits et ça permet aux agriculteurs qui sont adhérents à ce système d'avoir une espèce de revenu garanti.
Mm-hmm.
Tant de paniers, ils le touchent, même lorsque la saison est maigre, lorsqu'ils n'ont plus grand-chose, un jardin, eh bien, ça fonctionne. Vous avez ça. Vous avez... des marchés que producteurs. Alors ça aussi, ça a tendance. N'ont accès au marché que des gens qui sont en vente directe, producteurs.
Oui.
Alors, débat interne, est-ce qu'on met un producteur qui va pour trois producteurs? On retrouve les asperges tout à l'heure. Mais ça se développe. Vous en avez un qui a ouvert, par exemple, au mois de mai, à Saint-Julien, dans notre secteur. Très intéressant à voir. Est-ce qu'il va réussir? Voilà. Est-ce qu'il va répondre à une demande des clients? Demande du client, c'est-à-dire ouvert, avoir un éventail complet de produits et avoir un parking. Voilà, soyons simples, hein, faisons comme les hypermarchés. Si tu veux le client, il faut que tu aies un parking.
Tout à fait.
Il n'y a pas de problème. Vous avez des gens qui se sont mis à la vente en ligne, au colis d'abonnement.
Mm-hmm.
On connaît dans nos coteaux des gens qui font de la viande, hein, de l'agneau, du bœuf, qui abattent. Grâce à des services communs comme la CUMA de Montesquieu, qui font des colis, donc qui découpent, qui emballent, qui mettent sous vide, etc. Et des colis, voilà, qui sont livrés ou que vous venez chercher. Ils ont pris dans la filière. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, si vous discutez avec eux, au moins, s'ils font une bête par mois, ils assurent finalement une façon de vivre dans leur ferme, alors que le voisin qui a, lui, du bétail et des surfaces en général plus grandes, pour faire le même chiffre, il faut qu'il en fasse trois, qu'il en a de trois, voire quatre. Vous voyez la différence.
Mm-hmm.
Donc, le coût et la charge de travail. Vous avez des tas d'associations aussi qui se mettent en place. Et vous avez des circuits qui se montent. La ruche qui dit oui, pourquoi pas, etc. Et Biocoop qui a un rayon local. permet peut-être à des producteurs d'améliorer leurs marges. C'est là. Mais les pouvoirs publics, et je reviendrai peut-être sur ce point dans la conclusion, et les pouvoirs publics, que font-ils ? Que font-ils ici ? Parce qu'il faudrait bien les encourager. Parce que les agriculteurs, n'oublions pas que c'est une activité économique, ce sont des individus. Oui, on vient d'en parler. Mais c'est aussi eux qui structurent notre paysage, le milieu où on vit. Ce sont eux qui décident du destin de nos enfants à travers ne serait-ce que les traitements. On ne peut pas dire aux agriculteurs, c'est interdit, tu n'as plus le droit de traiter. Il faut que lui-même intègre que ce qu'il fait, c'est dangereux. Et que socialement, on ne le condamne pas. Il faut qu'on soit dans cette relation-là. Et là-dessus, je pense que les pouvoirs publics ont un rôle très important à jouer. Voilà, c'est une façon de terminer cette émission de l'Écho en folie, avec beaucoup d'énergie, j'espère. Et on reprendra ce sujet, parce qu'il est d'actualité.
Oui, oui.
Parce que, évidemment, le changement de gouvernement, le changement de président va entraîner, nous le savons, un changement de politique agricole, des modifications. Et je pense qu'il faudra en reparler lorsque ça sera mis en place, bien sûr, avec, par exemple, des représentants syndicaux.
Mmh. Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir.